Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Nous fêtons le 9 novembre Sainte Élisabeth de la Trinité. Cette carmélite morte à l'âge de 26 ans au terme d'une douloureuse et longue maladie a été canonisée par le pape François en 2016. Peu d'événements saillants sont à noter dans sa vie, mais un feu intérieur l'habite et la dévore. Quel héritage nous laisse-t-elle aujourd'hui ? Élisabeth de la Trinité se sait habitée au plus intime d'elle-même par la présence du Père, du Fils et de l'Esprit, en qui elle reconnaît la réalité de l'amour infiniment vivant. C'est ce que disait le saint pape Jean-Paul II lors de la béatification de sainte Élisabeth de la Trinité le 25 octobre 1984. Comment cette intimité avec la Trinité peut-elle aujourd'hui nous éclairer? Comment l'exemple de cette vie sainte peut-elle nous éclairer aujourd'hui? Et je reçois pour cela le frère Armand, carme au couvent de Toulouse. Bonjour frère Armand.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Institut Jean de la Croix, un institut de formation à distance sur la vie de prière. Avant d'entrer dans la spiritualité d'Élisabeth, je vous propose de tracer quelques grandes lignes de sa vie, puis je vous demanderai évidemment de compléter parce que mes mots ne seront pas exhaustifs. Élisabeth Cathèse, c'est son nom, est née en 1880. C'était une enfant heureuse, une pianiste virtuose. Elle aime les voyages, elle est très coquette. Mais loin de se laisser happer par les attraits du monde, elle choisit Jésus comme unique époux et se lie à lui par un vœu de virginité spirituelle à l'âge de 14 ans. Après des années d'attente, elle entre au Carmel de Dijon à sa majorité, qui à l'époque était de 21 ans. Frère Armand, quels événements saillants pour vous souhaitez-vous ajouter à cette brève biographie?
Alors je pense qu'il faut commencer par ajouter le décès de son père, hein, alors qu'elle n'a que 7 ans. Son père, qui était donc capitaine dans l'armée, et qui donc, on peut dire, déséquilibre le foyer familial, qui n'était pas grand. Hein. C'était un papa, une maman et puis deux filles. Et donc, clairement que ce déséquilibre va donner, du coup, à sa mère une très grande présence et même une certaine autorité qu'elle n'aurait peut-être pas eu de la même manière si le père avait encore été là. Et qui va du coup aussi entraîner le foyer à déménager à Dijon, d'où après cette proximité avec le Carmel. L'autre élément qu'on pourrait ajouter, c'est la découverte de la musique, hein, à partir de ses 10-12 ans, on pourrait dire. Hein. Dès 8 ans, on peut dire, elle rentre au conservatoire, et puis vers 12 ans, elle a les premiers prix. Et puis, elle a un grand prix d'accessit à l'harmonie au conservatoire alors qu'elle a 15 ans. Cette vie musicale, autour du piano en particulier, va développer en elle une sensibilité, des harmonies, on pourrait dire, de nuances intérieures qui vont se retrouver ensuite dans sa manière de décliner la vie spirituelle, la vie mystique. D'ailleurs, dans le totum de 1200 pages sur Élisabeth, qui a été publié aux recherches carmélitaines, un article de Pierre Barthès, qui est actuellement, si je ne me trompe pas,
organiste de la cathédrale de Toulouse,
et qui lui-même est un grand musicien, a bien développé ce lien entre Élisabeth musicienne et les harmoniques, on pourrait dire,
de sa vie spirituelle,
de quelle manière ça s'est vraiment décliné, on peut dire, dans une sensibilité purifiée et tout ouverte, du coup, à une capacité de communion très particulière.
Oui.
Ensuite, je pense que, bien sûr, l'élément qu'il faut noter, alors vous avez dit, après de longues années, elle est rentrée au Carmel, pas tout à fait, elle a attendu, finalement, ses 21 ans, ce qui est la majorité de l'époque.
Et elle avait un grand désir.
Elle avait un grand désir, mais elle ne pouvait pas rentrer à 15 ans, hein, comme petite Thérèse qui la précède.
Qui avait eu l'autorisation
et puis,
du
c'est
pape.
C'est ce qui fait d'ailleurs la grande différence. Ça c'est une autre question. C'est ce qui fait la grande différence aussi avec Thérèse, c'est qu'Élisabeth a grandi effectivement dans le monde, a mûri, on pourrait dire, sa personnalité, qui fait qu'elle rentre avec une âme à la fois pure, clairement, mais une âme aussi d'adulte au Carmel à Dijon. Donc, Le combat qu'a eu Thérèse sur, on peut dire, la transformation d'une petite fille qui va devenir une géante de la spiritualité n'est pas du tout celui d'Élisabeth de son époque. Autre élément qu'il faut ajouter, c'est que la communauté carmélite d'Élisabeth est une communauté probablement un peu plus fraternelle, où il y a moins de tensions, il n'y a pas cette rivalité entre le clan Martin puis les autres sœurs, oui. Il n'y a pas une espèce de prieure aussi très omniprésente, omnipotente quasiment, comme il y avait chez Thérèse, avec la mère Germaine qui finalement est une femme qui effectivement tient beaucoup de choses, parce qu'elle est à la fois maîtresse des novices et prieure, mais qui finalement donne une impression de générer une certaine paix, une certaine communion, et clairement qui sera, on peut dire, l'interlocutrice première d'Élisabeth, sans nécessairement être une mère de substitution, ce qui était un peu le combat de Thérèse en son temps. Mmh. Donc on peut dire que c'est une femme d'une certaine maturité, pour être prudent, qui entre au Carmel.
Et pourtant, elle a quand même connu la résistance de sa mère qui ne voulait pas qu'elle rentre au Carmel.
Elle ne voulait pas qu'elle rentre au Carmel trop tôt.
Oui.
Elle craignait effectivement ce nouveau déséquilibre, puisque clairement, elle allait se retrouver assez vite plus seule, si je peux dire. Et puis, elle craignait pour elle. Mais c'est une femme de foi, hein. C'est une femme qui accompagne sa fille dans son chemin de foi. Donc, elle n'est pas non plus opposée strictement à la vocation de sa fille. Hein. Mmh. Voilà. Mais clairement, elle avait cette espèce de résistance. Et puis, bah, on peut le comprendre, c'est une fille qui donne une impression de liberté, adulte, une jeune femme assez brillante, assez belle.
Elle brillait dans le monde.
Voilà, brillante. Et donc, effectivement, du coup, le sacrifice d'aller au Carmel, qui à l'époque, il faut mesurer, hein, il y a des grilles, les sœurs mettent un voile devant le visage quand elles reçoivent quelqu'un. Enfin, le caractère de clôture est bien plus fort qu'aujourd'hui, qui existe encore, hein, mais modulé, on pourrait dire, d'une manière un peu différente.
Et puis, elle avait une sœur qui s'appelait Gitte.
Alors voilà, donc Élisabeth a une sœur qui s'appelle Gitte, qui est plus jeune qu'elle, mais qui, justement, c'est une grande différence aussi avec petite Thérèse, va se marier avec un certain monsieur Chevillard, et du coup va ouvrir Élisabeth, on peut dire, à un monde laïque qui va se retrouver dans sa correspondance épistolaire. Et là, on a une Élisabeth un peu missionnaire depuis son Carmel qui écrit à pas mal de personnes dans le monde, qui les conforte, qui les accompagne, qui les console, qui donne, on pourrait dire, à chaque fois le petit mot de Dieu qui correspond à leur situation.
Donc c'est une forme d'accompagnement spirituel, mais
alors,
épistolaire, non ?
Oui, une forme d'accompagnement, une forme de proximité, une forme, oui, de marche avec, tout en n'ayant pas, bien sûr, ce titre d'accompagnatrice, de directrice, enfin là-dessus, il n'y a pas de ça, mais il y a une forme de proximité.
De compagnonnage.
Voilà, que clairement, nos sœurs carmélites continuent d'avoir aujourd'hui de manière discrète. Il n'y a pas de Carmel isolé dans une île. Les Carmels sont toujours ouverts, on pourrait dire, à l'entourage des personnes qui sont là pour prier avec. Mmh. Donc ça, c'est l'élément. Et puis, bah, l'autre élément aussi qu'il faut ajouter, donc effectivement, sa sœur est un, on pourrait dire, quelqu'un qui va l'accompagner tout du long, hein, avec une nièce, d'ailleurs, qui prendra son propre nom. Et puis, bien sûr, il y a des personnes qui vont jouer un grand rôle, en particulier, il faut dire, le dominicain, le père Vallée, hein, qui est quelqu'un d'extrêmement théologien, hein, qui connaît bien la doctrine, et qui va beaucoup aussi la pousser, on pourrait dire, dans cette méditation en particulier de saint Paul, qu'elle va reprendre de manière très précise, mot par mot, en essayant de voir, et c'est typique d'Élisabeth, comment est-ce que les mots de saint Paul résonnent dans son âme. Hein, c'est très important. Tout comme on pourrait dire comment chaque note résonne dans une salle.
Ah oui, hein. Donc là, c'est voilà, là que on vous faites le lien. Entre...
Faites le lien. Donc clairement, la parole de Dieu n'est pas uniquement une information, hein, elle est une présence qui est appelée à vibrer dans les âmes, et du coup, par cette vibration, à faire son effet. Son effet de charité, son effet, on pourrait dire, de dilatation de l'âme, qui est déterminant en termes de fécondité et de présence dans l'Église.
Et ce qui fait que c'est ce qu'on dit quand on dit que la parole de Dieu est vivante.
Voilà, alors elle est vivante, d'une part parce qu'elle opère un effet, hein, sur le monde, sur la création, sur les personnes, qui est évidemment toujours dépendant de la liberté de celui qui la reçoit, très clairement. Mais elle est aussi vivante parce qu'elle opère une relation. relation entre la personne, l'âme et Dieu, et surtout entre des personnes. C'est quand même assez extraordinaire, quand vous voyagez un petit peu, de voir qu'on arrive à se comprendre avec des personnes qui n'ont ni notre langue, ni notre culture, et qui pourtant, dans un même rite, d'une certaine manière, partagent la même foi. Hein. Oui. Donc là, elle est vivante en ce sens qu'elle crée une unité entre des personnes qui n'ont pas beaucoup de points communs au plan culturel, au plan social, au plan mondain, on pourrait dire.
Voilà. Alors, on va parler, si vous voulez bien, maintenant, frère Arnaud, de la spiritualité d'Élisabeth de la Trinité. Jacques Gauthier écrivait qu'elle a trouvé un sens à son existence en vivant en présence de la Trinité, qu'elle appelait ses trois, à l'intérieur d'elle-même. Finalement, quelle était sa foi ?
Alors, la foi d'Élisabeth ne grandit pas dans un placard. Elle grandit dans une église. Et cette église, elle va d'abord grandir dans une église large, on pourrait dire, parce que elle va faire des missions dans sa paroisse. Elle va d'abord être catéchisée. Hein. Il faut quand même voir que Thérèse de Lisieux ou Élisabeth sont des jeunes femmes qui arrivent au Carmel très catéchisées. Elles n'ont peut-être pas fait la catho de Toulouse, mais elles savent exactement quels sont les dogmes, qu'est-ce que c'est que la Trinité, qu'est-ce que c'est que la Christologie, elles savent ces choses-là.
Donc elles sont bien formées.
Elles sont bien formées. Hein. Donc, la première chose, c'est que donc on peut dire conceptuellement, elles ont quand même les mots qui correspondent aux vérités éternelles qui les correspondent. Hein. Ensuite, la question de la Trinité, c'est que nous devons enlever nos lunettes, on peut dire modernes, qui consiste à voir la Trinité comme une réalité totalement abstraite, hein, une construction qui correspond à une espèce d'imagination. Non, la Trinité, Élisabeth y entre de la même manière, d'une certaine manière que tous les apôtres, que tous les chrétiens, elle y entre par une unique médiation, une unique porte qui s'appelle Jésus. Hein. Il n'y a pas d'autre porte, ce n'est pas possible d'entrer autrement dans ce grand mystère de communion des personnes divines, premièrement. Et puis, ce qui va se développer clairement chez elle, hein, c'est que son attrait, on pourrait dire, pour le mystère de Dieu, va se concrétiser dans cet attrait pour la communion qui est Dieu. Qui est Dieu. Parce que la Trinité, ce sont des relations, en théologie on dit subsistantes, c'est-à-dire que Dieu n'est que relation. Hein, la relation n'est pas un élément parmi les réalités de sa personnalité. Non.
Donc cette relation entre les trois personnes de la Trinité, Père, Fils et Esprit Saint.
Voilà, cette relation entre les personnes de la Trinité, il n'y a que relation. C'est-à-dire que le Père ne fait que donner sa paternité au Fils, le Fils ne fait qu'accueillir cette paternité, hein, donc ce consentement qui est la recherche permanente de Jésus, hein, de faire la volonté du Père, hein, c'est permanent, hein, et puis il le dit dans sa prière, hein, que ta volonté soit faite. Hein. Et puis on voit bien Jésus, finalement, n'a qu'une idée fixe, on pourrait dire, c'est de faire cette volonté et donc de la trouver, en particulier de la trouve, dans les petits, les plus pauvres, ceux qui finalement ont une petite parole, alors que chez les pharisiens, ceux qui savent, évidemment, ils ne la trouvent pas. Mmh. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est tellement touché, Jésus, par les petits. Et on va retrouver cela avec Élisabeth, parce que ce qui va définir la spiritualité du Carmel, c'est l'attention à Dieu dans les toutes petites choses. Dans les petits détails de la vie, voyez, dans la manière de faire un petit service, de se mouvoir, de chanter, d'écouter, des toutes petites choses qui fait que cette vie du Carmel est dépouillée, voyez, des actions ordinaires de l'homme du monde pour être plus attentif aux petits détails qu'un homme du monde ne voit pas parce qu'il est couvert, comme dirait Jésus, avec les ronces ou avec bien des soucis, hein, que n'a pas normalement la carmélite qui est attentif qu'à la présence de Dieu dans le détail.
Et c'est comme ça que sainte Élisabeth de la Trinité voit la Trinité de façon beaucoup plus concrète ?
Elle la voit de manière ultra concrète, très clairement, dans cette vie, on pourrait dire, de moniale, où on pourrait dire ce qui est le plus ardu et en même temps le plus exaltant dans cette vie moniale, c'est la monotonie du quotidien. Et c'est ce que nous cherchons toujours, avec notre cœur blessé de pécheur, à fuir. Hein, à fuir, que ce soit par le virtuel, que ce soit par l'imaginaire, que ce soit par des divertissements.
Par les sens.
Par les sens, voilà. Et Élisabeth va lutter pour retrouver cette présence de Dieu dans le détail. Et très clairement, elle va s'appliquer en ce sens, hein, à du coup être très, très fidèle aux horaires, être fidèle aux exercices de la communauté, à être fidèle à ce qui lui est demandé, non pas ce qu'elle aimerait faire. Voyez.
Donc il y a une grande obéissance chez
voilà.
elle.
Ah ben, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Donc Élisabeth en est vraiment le signe. Mais ce qui va la définir de manière particulière, c'est cette conscience que le don de Dieu dépasse largement ce que je peux attendre de lui. Ça, c'est très important. Et de fait, la Trinité, comme don, hein, donc le Père qui se donne à l'Esprit, au Fils, le Fils qui accueille ce don, et on pourrait dire, comme dit le théologien François-Xavier Durvel, l'Esprit-Saint, j'aime bien, il dit, c'est l'engendrement mutuel du Père et du Fils. Hein, c'est pas, le terme de spiration nous est un peu compliqué pour nous. Non, j'aime bien, le Père et le Fils engendrent ensemble, de cette manière, l'amour qui est l'Esprit-Saint. Et précisément, Élisabeth va faire l'expérience hein, de cette présence, on peut dire brûlante, de l'amour de Dieu qui est tellement fort qu'il brûle à la fois nos incapacités, nos déficiences, et en même temps génère en nous, et créateur, génère en nous une capacité de participation à cet amour qui est éternel.
Mais cette prise de conscience, Élisabeth de la Trinité la réalise, mais c'est tout un travail pour nous, les chrétiens, de réaliser cette immensité de l'amour de Dieu et le fait qu'il soit effectivement concret et présent dans chaque une de nos âmes.
Oui, alors c'est pour ça que, il faut dire les mots, hein, une des portes d'entrée, c'est la contemplation du Christ crucifié. Là, on rejoint, on peut dire, la spiritualité carmélitaine en particulier, puisque Thérèse d'Avila se convertit face au portrait de Jésus crucifié. Et ce portrait, vous le savez, il est haut de 15 cm de haut et 500 cm de large. Enfin, c'est quelque chose de tout petit. Alors elle en fait, on peut dire, l'icône de sa conversion. C'est-à-dire, elle se rend compte à quel point, jusqu'où Jésus m'a aimé. Il a versé ce sang pour moi. Et donc, clairement, la porte d'entrée hein, de cette réalité concrète de la Trinité, c'est l'expérience de l'amour infini de Dieu qui se manifeste dans le Christ crucifié.
Par le don de son Fils.
Ce crucifié, c'est lui-même le Fils.
Oui,
mais par le fait que le Père offre son Fils dans cet amour qui va jusqu'à l'extrême, mais c'est une livraison libre, hein, qu'il soit victime du péché des hommes. Donc de fait, dans sa prière, elle dit « Ô mon Christ, aimé, crucifié par amour, je voudrais être une épouse pour votre cœur. » Je voudrais vous couvrir de gloire, je voudrais vous aimer jusqu'à en mourir. Hein? Et ça, elle va le vivre en tant que telle, mais je sens mon impuissance et je vous demande de me revêtir, c'est magnifique, de vous revêtir de vous-même, d'identifier mon âme à tous les mouvements de votre âme. Vous voyez combien c'est musical. C'est-à-dire qu'elle ne se revêt pas de l'extérieur comme on met un habit, vous voyez, comme on met un déguisement. Non, elle se revêt comme une lumière qui vient habiter l'âme, de sorte qu'on pourrait dire que les sentiments du Christ, hein, sa joie des pauvres, sa joie des petits, son angoisse de voir des grands pécheurs peut-être aller dans l'abîme de l'enfer, hein, tout ça, elle le vibre en elle-même. Elle le vibre en elle-même. Et alors, elle n'aura pas du tout le même défi. Hein, elle ne raconte pas cette question de la nuit, comme en parle Thérèse. Mais clairement, elle est quand même la fille de Thérèse d'Avila. Donc, elle médite sur ce Christ, au Christ crucifié, et qui est vraiment une révélation. Saint Paul étant, on pourrait dire, sa clé de lecture hein, de cet amour infini du Christ crucifié, qui va jusqu'à s'identifier dans son propre âme. Hein. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre parce qu'elle se laisse, comme elle dit, submerger, envahir, substituer à moi. Enfin, c'est des mots très forts qui expliquent cette union d'amour qui est clairement extrêmement présente, en particulier dans le cantique spirituel de Jean de la Croix. Donc, Élisabeth est bien fille du Carmel. Hein, il ne faut pas dire qu'elle est une espèce de météorite hein, qui arrive dans un Carmel comme un laboratoire et qui finalement profite de quelques éléments pour devenir sainte. Pas du tout. Elle est dans une église, dans une tradition. Elle est fille du Carmel, mais elle va y donner sa propre note, qui est cette question, en particulier des harmoniques de nuances musicales et cette compréhension, on pourrait dire, intériorisée du mystère de Dieu qui est amour, qui est donc Trinité.
Et Élisabeth de la Trinité a dû gérer sa grande sensibilité. Et comment a-t-elle pu y parvenir, justement, pour arriver à cette intimité avec la Trinité?
Alors, effectivement, Élisabeth a un problème, on en a tous, hein, qui est très différent de Thérèse, c'est que autant elle a, on pourrait dire, une forme d'abandon de son père jeune, mais en psychologie, on sait que l'abandon du père n'est pas tout à fait le même, n'a pas la même répercussion hein, que l'abandon de la mère. Et puis là, elle a un âge un tout petit peu plus âgé, mais pas tellement. Donc, mais elle a tout de même un problème, c'est que, comme je l'ai dit au début de l'émission, le foyer dans lequel elle grandit est déséquilibré. Mmh. Il y a un manque d'autorité paternelle qui est, en fait, je pense, qui lui est assez présent symboliquement, mais pas réellement. Mmh. Puisqu'il était capitaine, donc on imagine la place qu'il avait, et donc on imagine en plus la manière dont sa mère devait rappeler régulièrement sa présence au foyer, comme c'est le cas parfois dans certains foyers. Donc le père est parfois très présent symboliquement, mais absent réellement.
Or, donc peut-être un peu auréolé aussi.
Alors peut-être un peu, oui, ou un peu, oui, c'est ça, tout à fait. Et donc, Elisabeth va grandir avec un problème, qui est le fait qu'elle va développer ce qu'on appelle un irascible tout à fait incontrôlable. Et l'irascible incontrôlable, ça s'appelle tout simplement la colère. Donc elle va faire des caprices, et elle va se mettre en colère, mais extrêmement fortement, pour des petites choses, et elle va souffrir de cette répercussion sensible à des frustrations affectives. Et donc ça, elle va grandir avec cela, et progressivement, elle va découvrir deux lieux, on pourrait dire, qui sont tout à fait en communion, qui convergent l'un à l'autre, deux expressions, deux lieux, on pourrait dire, de transfiguration de cette fragilité. Le premier, clairement, c'est l'expression par la musique, c'est-à-dire qui transforme, on pourrait dire, en beauté l'effort, parce que clairement, à mon avis, la première élément pour transformer une faiblesse, voire un vice, en vertu, bah, c'est l'effort. Oui. C'est-à-dire qu'il faut le vouloir. Hein. Si on ne veut pas, bah, le vice continue de nous dominer. C'est la loi éternelle. Hein.
Ça ne se fait pas tout seul. Hein.
Voilà, ça ne se fait pas tout seul. Donc là, clairement, que la discipline liée à la musique pour arriver aux performances qui sont les siennes exige de l'effort. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis, deuxième élément, c'est sa rencontre avec un amour qui dépasse, on pourrait dire, toutes les attentes humaines. Et donc, elle n'est pas du tout jalouse, d'ailleurs, du fait que sa sœur se marie, qu'elle a un époux, mais elle mesure bien que Jésus, époux crucifié, est d'un autre ordre. Alors, à l'époque, en plus, on symbolisait beaucoup hein, la profession solennelle. On a une photo d'Élisabeth sortant de quasiment de l'église en mariée, le jour de sa profession. Bon, ce sont des rites que nous ne faisons plus parce qu'il y a beaucoup d'équivoques, d'ambiguïtés, que ça serait mal compris aujourd'hui. Voilà, voilà. Et malheureusement, d'ailleurs, parce que aujourd'hui, sa conscience d'être épouse du Christ, très jeune d'ailleurs, comme vous l'avez dit, puisqu'elle fait vœu de virginité très jeune, la porte dans cette appartenance totale au Christ, qui est l'autre élément qui, on peut dire, en profondeur, va progressivement transfigurer, on peut dire, sa colère en force d'âme. Parce que ça, c'est très clairement dit par Conrad de Mester dans son livre. Hein. Elle a une force d'âme, elle appellera ça la forteresse du saint recueillement. Elle a une force d'âme qui est sa capacité à se maîtriser. Mais vous voyez, pas de la contention. Ce n'est pas de la contention, c'est-à-dire qu'on créerait une forme de personnage qui arriverait volontairement par la volonté forte.
Avec beaucoup de frustration aussi.
Et finalement, voilà, en générant du coup beaucoup, beaucoup de frustration. Mmh. Non, c'est une force d'âme qui fait que, en fait, le terme qu'on utilise en théologie pour cela, c'est qu'elle a une forme d'assomption. La colère est assumée, on pourrait dire, dans l'amour. Mmh. Elle n'est pas frustrée, elle n'est pas cassée, voyez. Elle n'est pas non, t'as pas le droit, voyez.
Oui, c'est ça.
Vous voyez, c'est un peu comme certaines éducations où exprimer certaines émotions est tout à fait répréhensible. Non, c'est pas ça du tout, voyez. Et donc, c'est clairement l'amour divin, l'amour éternel dans le Christ crucifié qui va opérer peu à peu cette transfiguration et donc l'expérience pour le coup du recueillement thérésien. Qui a un peu un espace dans lequel elle a le droit de dire, on peut dire à Jésus sa colère, mais elle va obtenir régulièrement des éléments de consolation qui fait qu'elle se sent écoutée, entendue, qu'elle n'est pas toute seule. Et donc, du coup, ça se transfigure, vous voyez, en abandon, en détachement, qui sont des valeurs essentielles au Carmel, en laisser aller, vous voyez. Et du coup, l'âme, on pourrait dire, sort de son emprise de possessivité. Mmh. Vous voyez. Donc ça, c'est l'élément, c'est que la musique va être le langage
par lequel elle pourra exprimer cela. Et le contenu de ce langage va être sa relation au Christ qui, par sa grâce, va progressivement, on pourrait dire, transformer la colère en force.
Transfigurer, presque.
Voilà, et chez saint Thomas, on dit clairement, la vertu de force, il y a un élément de la vertu de force qui est déterminant, ça s'appelle la patience. Voilà, la patience, comme dire, Dieu fera son œuvre dans le temps, et non pas dans le temps que moi je me donne.
Eh oui.
Voilà. Donc ça, chez Élisabeth, très clairement, c'est intéressant pour nous parce que qui n'a pas de problème, qu'il vienne ici dans cette table. Et notre enjeu, c'est vraiment cette transfiguration, on pourrait dire, de nos faiblesses, on pourrait dire, morales. C'est pas toujours des vices parce que c'est pas toujours moralement répréhensible, mais en tout cas de certains déséquilibres en intégration de cette réalité-là dans une relation à Dieu.
Je vous propose premièrement que nous marquions une pause musicale et puis après nous allons continuer à découvrir ce que Élisabeth de la Trinité peut nous apporter dans notre vie d'aujourd'hui. Nous écoutons Le Rendez-vous secret, composé et interprété par Pierre Eliane, un carme. Et nous nous retrouvons juste après.
Voici que je te donne un rendez-vous intime, un rendez-vous secret, divin, mystérieux. Ô ma sœur, cachons-nous au fond du double abîme, c'est là que nous attend la douce paix des cieux. Sachons toujours descendre à la dernière place, afin de ressembler à Jésus notre époux. Alors luira sur nous la clarté de sa face, car il est attiré vers les humbles, les sans cesse en sa présence. Il faut s'anéantir, c'est la condition. Oh, que l'abaissement soit notre résidence, notre palais royal, notre habitation.
Vivante Église, Isabelle Duché.
Sainte Élisabeth de la Trinité, une sainte pour notre temps, c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui avec le frère Armand Carme, qui est aussi directeur de l'Institut Jean de la Croix, un institut de formation à distance sur la vie de prière. Vous avez rappelé, frère Armand, quelques traits de la vie d'Élisabeth de la Trinité et de sa spiritualité. Vous nous avez expliqué comment Élisabeth de la Trinité avait pu... se détacher de sa sensibilité et qu'elle l'avait mis finalement au service de sa relation avec la Trinité, comment elle s'était laissée imprégner aussi par ce Dieu trois, par ces trois, comme elle les appelait. Il y a maintenant cette question qui occupe nos contemporains, et aujourd'hui ils cherchent Dieu en dehors d'eux-mêmes. Et où Élisabeth l'a-t-elle trouvé, ce Dieu?
Alors... Élisabeth, on aurait assez facilement tendance à dire elle a trouvé Dieu dans son cœur.
Mmh, au fond de son âme.
Au fond de son âme, elle a trouvé Dieu et elle vit un peu dans ce home sweet home de son âme où elle est bien avec Jésus. Hein. Ça, c'est une tentation qu'on aurait. Je pense que c'est totalement erroné.
Parce que ce serait une relation trop personnelle, en fait, mon petit Jésus.
C'est-à-dire que c'est une relation intimiste qui va contre, d'abord, l'altérité qu'implique la révélation. Jésus vient toujours à contre-courant. Hein, quand il appelle ses apôtres, ils sont en train de faire autre chose, en général. Et ceux qui disent, moi, j'aimerais bien venir à tes côtés, il dit, rentre chez toi. Voilà. Jésus vient à contre-courant. Hein. Jésus contrarie souvent nos propres volontés, nos propres désirs, on peut dire charnels. Hein. Donc, ça serait faire de la révélation une affaire toute intime qui, finalement, est une espèce de complaisance, d'une forme d'égoïsme. Mmh. Voilà. Non, le Christ vient contrarier, donc finalement, il la contrarie dès le début, puisqu'il contrarie sa propre mère. Hein. Je relisais récemment la vie du père Marie-Eugène de l'enfant Jésus, c'est très intéressant, parce que, pareil, elle a une mère très pieuse, et sa mère imagine qu'elle sera un jour dans un presbytère avec lui jusqu'à la fin de sa vie, et est très contrariée qu'il rentre au Carmel. Donc il raconte comment la souffrance de sa mère, avec qui il a une grande intimité, contrarie finalement une affection mutuelle qui peut paraître bonne, mais que Dieu veut délier pour sa gloire. Effectivement, il dit, la souffrance que le Seigneur m'inflige à moi, parce que ça fait souffrir à lui, et t'inflige, sera au service de la fécondité ecclésiale. Donc, premier élément, donc Dieu vient à contre-courant. Dieu est autre, et le tout autre, hein, disait Bobin, il est tout autre, il vient, on peut dire, à contre-courant, voyez. Donc, premier élément, Jésus, c'est pas son intime. Deuxième élément, elle le trouve, en fait, d'abord dans sa méditation de la parole de Dieu.
Vous avez parlé des lettres de Saint Paul.
Alors, lettres de Saint Paul, Saint Jean aussi, bien sûr, hein, l'évangile, n'en parlons pas. Et bien sûr, la manière dont Jean de la Croix répercute, on pourrait dire, la parole de Dieu, en particulier dans ses écrits mystiques, hein, mais ascétiques aussi. Bien. Donc, premier élément, on pourrait dire, elle le trouve, en fait, au fond, dans sa méditation de la parole de Dieu, qui correspond finalement au précepte central de la règle du Carmel. Hein. Deuxième élément, on pourrait dire, Élisabeth trouve Dieu dans ses relations humaines.
Donc avec ses sœurs.
D'abord auprès de sa famille, ses amis, hein, les gens qu'elle fréquente. Hein, comme vous avez dit, elle voyage d'abord, elle rencontre pas mal de gens. Et puis effectivement, dans une relation fraternelle auprès de ses sœurs, en particulier avec sa prieure, qui apparemment l'a quand même bien accompagnée tout au long de ces six petites années au Carmel. Hein. Et clairement, elle se sent accueillie non seulement comme personne, comme femme, mais la communauté ecclésiale dans laquelle elle vit, donc le Carmel, va lui révéler finalement le mystère de sa propre vie. Elle s'appellera Louange de Gloire. Hein. C'est-à-dire, c'est très très beau au Carmel, on prend un mystère, donc souvent il était donné par les supérieurs à l'époque, maintenant il y a plus de négociations, de dialogues, c'est très important. Bon. Mais quand j'en ai un peu marre avec un frère, ça peut arriver, hein. Je me dis, mais quel est son mystère? Et on relit le frère à partir de son mystère, et ça, c'est souvent pas du tout anodin.
C'est très éclairant.
Ouais. Pas du tout anodin. Et donc, en l'occurrence, ça s'appelle Élisabeth de la Trinité, c'est un nom qui lui est donné. Et clairement, ce mystère de la Trinité, qui est accolé ou qui est, on pourrait dire, apposé à son propre nom, va se développer par le don de l'Église qui s'incarne dans la communauté dont elle fait intégralement partie.
Donc je pense que parole de Dieu, mystère ecclésial, et qui est un mystère ecclésial qui n'est pas réductible aux personnes qu'on voit, mais vous savez, l'Église...
L'Église universelle, alors.
Ben oui, ce sont aussi donc les âmes du purgatoire pour lesquelles elle prie. Ce sont les grands pécheurs pour lesquels elle prie. Et ce sont les saints avec lesquels elle est en communion, ou du moins elle demande cette communion. Donc depuis non seulement Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, tous les saints du Carmel, qui sont quand même un certain nombre, et dont elle a connaissance, et en particulier cette petite Thérèse, qui est donc décédée, on peut dire entrée dans la vie, comme on dit, uniquement 4 ans avant son entrée au Carmel, et dont on commence à parler.
Oui, puis c'est Thérèse de Lisieux qui a dit « Dans le cœur de l'Église, je serai l'amour ».
Je serai l'amour, et donc clairement les écrits de Thérèse commencent à se diffuser, en particulier par l'entremise de Mère Agnès, la prieure, qui est aussi sa sœur aînée. Et donc, la petite voix commence un peu à faire son effet, on peut dire, dans les divers carmels. Donc, vous voyez, donc la tentation de dire où elle trouve Dieu dans son cœur, elle le trouve non pas à l'extérieur d'elle-même, non pas à l'intérieur d'elle-même, elle le trouve elle-même en consentant d'entrer toujours davantage dans ce mystère de l'Église où est le Christ, puisque c'est son propre corps mystique. Je pense qu'il faut bien avoir ça en tête pour comprendre notre appartenance, finalement, au corps de l'Église comme une réalité essentielle, voire même comme une médiation absolument essentielle pour avoir une relation objective avec Dieu. Parce qu'autrement, nous avons une relation totalement émotive, passionnelle, subjective avec Dieu. Vous voyez, elle dépend de nos humeurs, elle dépend de nos émotions. C'est pas du tout le Dieu tout autre, cela. C'est pas celui qui se révèle à Moïse dans le buisson ardent. C'est pas je suis.
Mais justement, c'est ce que je voulais vous demander, puisque aujourd'hui, dès qu'il y a un événement qui est médiatisé, les moralistes de tout poil s'insurgent, se déchaînent. Ils se fondent davantage sur des sentiments que sur des valeurs morales. Comment l'exemple d'Élisabeth de la Trinité peut nous éclairer sur ce défaut du monde, frère Armand ?
Oui, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on en est arrivé à un problème fondamental qui est la perte de la raison comme repère universel acceptable par tous. Et donc, c'est en ce sens qu'ensuite, progressivement, Benoît XVI, d'abord Ratzinger, s'est fait reconnaître en dénonçant cette dictature du relativisme. Et il dit, de fait, nous sommes passés du marxisme au libéralisme, du libertinisme au collectivisme, à l'individualisme, enfin, tous les ismes, de l'athéisme à un mysticisme religieux. Enfin, vous voyez, donc, et il dit, les gens, en fait, on peut dire, sont basculés comme dans une barque, d'une vague à l'autre, en permanence, à la recherche d'émotions toujours nouvelles et contrariées.
En perdant le phare, finalement.
En perdant le phare, parce que le phare, ça s'appelle la raison, c'est-à-dire l'intelligence éclairée par la vérité. Et la vérité, il est quand même difficile d'y accéder en disant qu'elle est totalement coupée de toute transcendance, de toute divinité, de toute révélation. Et donc, clairement, en ce sens, on pourrait dire que ce qui touche, on pourrait dire, chez Élisabeth, c'est qu'elle va nous faire entrer dans ce mystère de Dieu, mais un mystère qui est compréhensible, un mystère qui est accessible, mais un mystère qui se donne à nous. Voyez, c'est pas uniquement c'est pas une construction humaine. Il se donne à nous et il se donne par ces repères que je viens de dénoncer, qui sont l'objectivité de la parole de Dieu, l'objectivité d'une communauté ecclésiale, l'objectivité aussi d'une mission qui est donnée à une personne dans l'Église. Parce que Élisabeth, finalement, c'est l'Église qui lui donne progressivement cette mission d'être, on peut dire, le héros le héros de ce mystère de la Trinité. Vous voyez, c'est pas elle qui dit bon,
qui
moi,
a choisi, oui,
moi
oui.
Dans ma communauté, je vais être celle qui va être
la spécialiste.
De la Trinité. Vous voyez, non, elle reçoit cela tout comme on le voit avec tous les personnages bibliques dont le nom est souvent changé par Dieu dans la Bible. Le Abraham qui devient Abraham, le H de la divinité. Enfin, vous voyez, donc c'est les Jacob qui devient Israël. Si les noms sont changés, c'est parce que le nom est souvent lié à une mission. hein, Simon qui devient Pierre. Et ben, c'est la même manière. Nous avons, quand nous entrons dans ce mystère de l'Église, l'Église, inévitablement, nous donne une mission. Une mission qui est toujours celle que nous n'aurions pas voulu. Parce que précisément, nous la donnons pas à nous-mêmes. Voyez. Et donc, Élisabeth va, par sa vie, par ses souffrances aussi, hein, cette vie si jeune, hein, qui est à la fleur de l'âge.
Et ses renoncements.
Et ses renoncements va nous dire de quelle manière l'amour de Dieu peut non seulement tout prendre, prendre tous les éléments de notre vie, tout transformer et nous rendre capables d'une capacité de communion comme la sienne. Hein, très, très clairement.
Alors, peut-être une toute petite dernière question sur l'individualisme, là aussi, qui est un autre mot de l'époque, puisque Élisabeth a lutté contre cet individualisme. Et alors, comment ça peut nous éclairer, nous aussi, frère Armand ?
Alors, je pense que l'une des réponses d'Élisabeth, c'est la manière dont elle va vivre la souffrance de sa maladie, hein. Une maladie endocrinienne qui, à l'époque, est assez rare, qui est une forme d'insuffisance surrénalienne chronique primaire, hein, qui va détruire progressivement donc sa capacité en particulier d'avaler. Hein, donc, elle va avoir de plus en plus de mal à manger et elle n'aura aucun antidouleur parce qu'à l'époque, on n'est pas dans les soins palliatifs. Donc, elle n'a pas d'antidouleur. Donc, elle ne le vit pas héroïquement en disant « je ne veux pas d'antidouleur », mais c'est comme ça. Et dans cette passion, on pourrait dire, hein, elle va vivre une grande délicatesse de relation et grâce à une prieure qui est assez compréhensive en particulier. Elle va même avouer qu'elle a compris la tentation du suicide. À un moment donné, il y a une sœur, alors qu'elle est à l'infirmerie, qui laisse la fenêtre ouverte. Et elle dit, vous êtes peut-être un peu téméraire de laisser la fenêtre ouverte.
Inconsciente.
J'ai pensé à cette tentation, mais ne soyez tranquille, Dieu est là, il me garde. Donc, vous voyez, dans ce sens, c'est très contemporain, puisque beaucoup de nos contemporains souffrent de maux parfois psychiques tels que pour eux, l'unique réponse, hein, c'est de mettre fin à cela en mettant fin à leur propre vie. Alors là, la réponse, on pourrait dire, à l'individualisme dont nous sommes parfois victimes, hein, qui est une forme de développement social de la gnose, puisque à force de développer notre propre religion à partir de l'ego, on n'a pas non plus besoin des autres. Hein, et donc, on va construire pour notre vie dans des mécanismes de défense permanents. Je pense que sa grande réponse, c'est l'émerveillement d'un amour qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Il faut bien se dire cela, et c'est la grande réponse qu'on a face à aussi des personnes qui sont tentées aussi par l'avortement, pour un handicap très grave. Oui, un handicap, mais on ne sait pas ce que cet enfant pourrait donner comme don dans la famille. On voit uniquement le côté négatif, tout ce qu'il faudra porter, tout ce qui sera lourd. Et on voit aussi nos propres limites, hein. On voit tout le côté négatif. Et on oublie que peut-être que cet enfant, aussi handicapé soit-elle, sera finalement, paradoxalement, malgré ses difficultés, le salut de cette famille. Voilà. Et de la même manière, Élisabeth se laisse complètement prendre par cet amour. Elle dit souvent cela, « Laisse-toi aimer plus que ceci », c'est-à-dire sans craindre qu'aucun obstacle n'y soit obstacle, « car je suis libre d'épancher mon amour en qui il me plaît, hein. ». Donc elle reprend elle déforme un peu les paroles de saint Paul et elle reprend ce « Laisse-toi aimer » et elle rajoute « plus que ceci ». Je pense que c'est la grande réponse à l'individualisme, vous voyez, c'est pas l'effort de vivre ensemble de manière collective comme l'ont proposé les marxistes, c'est l'émerveillement d'un amour de Dieu qui est toujours source de création, source de génération, source d'engendrement. Voilà.
Merci beaucoup, frère Armand, Carme, au couvent de Toulouse, de nous avoir éclairé sur l'actualité du message de Sainte Élisabeth de la Trinité. Je termine par ses dernières paroles quand elle est morte à l'infirmerie du Carmel de Dijon le 9 novembre 1906. Elle avait 26 ans. Je vais à la lumière, à l'amour, à la vie.
Musique.